Chapitre 36. Jouna se gare derrière un véhicule de police avec son gyrophare allumé. Il sort de sa voiture et court vers la maison. La lumière bleue clignotante balaie les buissons, les arbres et la façade en briques. Une Ford rouge est garée sous un abri à voiture. Deux policiers en uniforme tendent un ruban de signalisation de l'autre côté de la rue. Le vent fait vibrer le plastique blanc et bleu. Un opérateur du groupe d'intervention monte la garde devant la maison, un fusil automatique sur la poitrine. La serrure de la porte d'entrée a été forcée, et l'une des fenêtres donnant sur la rue a été brisée après l'assaut. Jouna entre dans la maison, traverse le couloir, et voit que la porte du dressing est entrouverte. Un poster de John Bess et Bob Dylan est accroché au mur. Sur le sol de la cuisine traîne la douille d'une grenade. Un policier est assis dans l'escalier menant à l'étage supérieur, son casque posé à côté de lui. Il indique le chemin à Jouna d'une main fatiguée. Jouna entre dans le salon. La porte de la véranda donnant sur l'arrière de la maison a été détruite de l'intérieur par une balle. On est au bon endroit. Le tueur est venu ici, mais il n'y a pas de trace de sang. Informe-t-il le reste de l'équipe sur Raquel. Il sort sur les dalles parsemées de débris de verre. Un membre du groupe d'intervention s'approche, dépose un petit chien par terre, puis le salue et l'informe que la maison était vide lorsqu'ils ont donné l'assaut. Un hélicoptère survole le quartier, n'est-ce pas? Demande Jouna. Ouais, mais explorez la zone. Cherchez un pick-up avec un treuil. Mais la direction n'a pas le temps d'attendre. L'interrompt Jouna en répondant à un appel. Le 112 a reçu un appel d'un voisin, l'informe le central. Francesca a traversé sa propriété du 83 Sankt Michaelsgatan en courant. Elle lui a crié de rentrer chez lui et d'appeler la police. Est-ce qu'il a vu l'agresseur? Non. Et il ne sait pas où Francesca est allée. Jouna se précipite à travers le jardin, bondit par-dessus une haie basse, aperçoit son reflet dans la vitre d'une véranda et saute un muret de pierre. Des empreintes de pieds nus sont visibles dans un potager. De la terre a été projetée sur l'herbe. Du charbon de bois brille dans un barbecue noir. Jouna s'arrête sur un petit chemin goudronné, regarde autour de lui, avance jusqu'au jardin suivant et voit que du linge est tombé d'une corde entre deux arbres. Il reprend sa course et passe à nouveau une haie. Un deuxième appel du central l'informe qu'une femme a contacté le 112 après avoir entendu une forte détonation à l'intérieur de l'église de Bethel. Jouna fonce à travers un autre jardin, bifurque, longe la façade de la maison, passe devant un garage, sort sur la Sankt Michaelsgatan et continue sur la gauche. Le vacarme du rotor de l'hélicoptère s'éloigne vers les hauteurs de Mellaröyden. Jouna prend la première rue transversale à droite, arrive devant l'église basse en bois et dégaine son arme. Le gravier de l'allée a été balayé. Il passe le portail et s'enfonce dans la pénombre. Une traînée de sang part de la nef et longe l'allée centrale jusqu'à la porte. Au fond, une plaque sombre scintille. L'odeur de la poudre flotte encore dans l'air. Elle est si faible que Jouna comprend qu'il est arrivé sur les lieux avec plusieurs minutes de retard. Il se laisse tomber lourdement sur le dernier banc et enfouit son visage dans les mains. Malgré un hélicoptère au-dessus de la zone, une quarantaine de voitures de police en maraude dans le quartier, une enquête de voisinage systématique, des caméras sur le bord de la route et des barrages routiers, le véhicule n'a pas été retrouvé. Le quartier résidentiel est vaste et si on emprunte des chemins de traverse, il y a plusieurs centaines d'issues non surveillées. Le ciel est pâle au-dessus des gratte-ciel jaune sale de Vellingby. Une corneille posée sur un lampadaire pousse des croassements solitaires. Jouna est sur le trottoir devant une tour grise au balcon vitré. Par l'une des fenêtres du premier étage, entre deux pans de rideaux de dentelle, il aperçoit une statuette bleu clair représentant la Vierge Notre-Dame de Fatima. Il repense à la statue sur la photo qu'il a trouvée dans la serre de Valeria. Trois filles pataugeant dans l'eau avec une statue bleu clair qui n'était pas la Vierge Marie, mais une sorte de déesse de l'eau. Il promène son regard sur de petites fenêtres à barreaux situées au niveau du sol, puis sort son téléphone pour appeler Valeria. « Jouna ?» répond-elle presque en chuchotant. « Je suis désolé. Pardon d'avoir été stupide. Je me suis senti pris au dépourvu. Je sais, mais... Elle prend une longue inspiration, puis reste silencieuse. « Tu peux me pardonner ?» demande-t-il.
« Bien sûr. Mais je suis triste.
Je comprends, j'ai été stupide. » La lumière se déplace légèrement derrière les rideaux des petites fenêtres du sous-sol. Des touffes d'herbe jaune ont poussé sur le rebord en béton.
« Tu veux me raconter ça avec tes propres mots ?»
demande-t-elle. « C'est ce qu'on dit habituellement pendant les interrogatoires, » dit-il, essayant de détendre l'atmosphère. Une jeune fille fait du skateboard sur le bitume à l'arrière d'une des tours. Elle s'entraîne à faire un kickflip et la planche atterrit toujours à l'envers avec un claquement. « Je n'ai pas de problème avec la drogue, si c'est ce que tu penses. »
« C'est bien. »
Jonas se déporte sur la pelouse lorsque deux femmes avec des poussettes passent sur le chemin. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise ?» demande-t-il.
« La vérité. Quand tu seras prêt. »
« Tu essaies de me dire que je mens. »
« D'abord, l'homme se drogue. Puis, la drogue se drogue. Et enfin, la drogue prend l'homme. »
« Ce n'est pas moi le drogué, Valéria. »
« C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. »
Un jeune homme en tenue de foot, un sac sur l'épaule, sort de la cage d'escalier et disparaît derrière le bâtiment. « J'ai pris de la drogue de manière contrôlée, de la même façon que je prends mes médicaments. »«
Je ne vais pas m'énerver contre toi, »
dit-elle brusquement,
« parce que je sais que c'est la dernière chose dont j'avais besoin quand j'étais toxicomane. » « Mais si tu es malhonnête, ce sera... »«
Tu ne comprends pas !» l'interrompt-il.
« Si. C'est exactement ce que je fais. »«
T'étais au fond du trou. C'est différent. T'as fini en prison. » »«
Maintenant je raccroche, Juna. Retourne prendre ta drogue et quand on aura terminé, peut-être que je t'attendrai. »
Juna fourre son portable dans sa poche, s'approche de l'immeuble, passe devant un caddie renversé, appuie sur le bouton de l'interphone, entend le grésillement du haut-parleur et se penche en avant. « Ouvre, c'est Juna, » dit-il tout bas. Quand la serrure fait entendre son déclic, il pousse la porte et pénètre dans la cage d'escalier. L'ascenseur est couvert de graffitis peints à la bombe et la vitre a été rayée. Juna descend l'escalier circulaire jusqu'au sous-sol. Un sac poubelle plein est posé sur le palier. Il écarte le sac avec son pied, pénètre dans le petit appartement de Laila et laisse la lourde porte se refermer derrière lui. Le sol est entièrement recouvert d'une bâche en plastique industriel. Un homme tatoué est allongé sur le canapé-lit, les yeux fermés. Une lampe à huile brûle sur la table de chevet. La lumière éclaire les bras épais de l'homme et ses mains. Juna avance lentement jusqu'à la kitchenette. Laila se tient sous la lumière de la hotte de la cuisinière, un pèse-lettres et des petits paquets de cellophane devant elle. C'est une femme d'environ 70 ans, vêtue d'un jean bleu et d'un polo noir. Ses cheveux gris coupés courts sont striés de gel. Les rides sur ses joues semblent avoir été creusées au couteau. Ses mains sont veinées et recouvertes de taches de vieillesse. « Dis-lui de partir, » dit Juna. « Il fait ce qu'il veut, » répond-elle sans le regarder. L'homme tatoué est allongé, la tête inclinée contre un coussin en velours marron, le menton en avant. « J'ai besoin d'être seul. »« Tu t'assieds par terre ou tu reviens plus tard, » réplique-t-elle en grattant l'intérieur d'une tête de pipe à l'aide d'une spatule. D'un geste habitué, elle extrait la pâte huileuse qu'elle met dans un bocal en plastique.